Certains d'entre nous ont été au GLS, au Global Leadership Summit, il y a deux semaines, où des orateurs nous parlent plus spécifiquement du leadership, de, entre guillemets, l'art de diriger, dont parle d'abord, d'ailleurs la Bible également. Mais je ne sais pas si vous le savez, c'est une dimension qu'on aborde très peu souvent dans ce domaine-là, quand on parle du fait de diriger des choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais la grande majorité des hommes et des femmes qui dirigent des entreprises, des ONG, des États, même des églises, ont souvent le même problème. Alors, on n'en parle jamais, je vous le dis, on n'aime pas en parler sans doute, et même quand les gens qui sont dirigés regardent les gens qui dirigent, en tout cas ceux qui sont appelés à ça, ils ne risquent pas de se douter de ce problème que connaissent tous les dirigeants sur cette planète. En fait, les dirigeants manquent de confiance en eux face aux problèmes et aux obstacles qu'ils doivent affronter, en tout cas les vrais dirigeants. Ça va peut-être vous étonner, mais c'est pourtant vrai. La raison est souvent à rechercher dans l'environnement familial. Très peu de parents, de pères en particulier, sont des leaders. Ils ne peuvent donc rien montrer des qualités qu'un leader doit posséder à leur progéniture en termes d'initiative, d'engagement ou de confiance en eux. Ça n'empêche pourtant pas que de nombreux hommes et femmes issus de ce genre d'environnement, et cet environnement est quand même à 90% plutôt globalisé, ce genre d'hommes et de femmes issus de cet environnement vont être malgré tout appelés à diriger quelque chose durant leur vie, ne fût-ce que leur famille. C'est frappant quand on prend les disciples de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi aux disciples de Jésus sur le rapport du leadership, de capacité intrinsèque, mais on ne peut pas vraiment dire que Jésus ait fait un recrutement, que je dirais, licite par rapport à le type de qualité qu'on demande à des leaders d'après notre point de vue à nous. Prenons Pierre par exemple. Apparemment, il n'est pas très fiable, en tout cas au début. Jésus choisit quand même. Et la plupart d'entre eux, même s'ils vont, ils iront jusqu'au bout dans le sacrifice à la suite de leur maître, à vue humaine, moi personnellement, et j'ai engagé du personnel, je n'aurais jamais engagé ces gars pour diriger quoi que ce soit. Il fallait donc qu'ils possèdent quelque chose qui était plus important pour Jésus que toutes les autres qualités. C'est frappant pour les disciples de Jésus, mais ça l'est tout autant quand on lit ce que Paul écrit à l'église de Corinthe. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. À lire ça, moi je me dis qu'on pourrait franchement s'étonner de la politique de recrutement opérée par le Saint-Esprit. La réalité est donc que de très nombreux leaders chrétiens se sont souvent retrouvés dans la situation de devoir demander à Dieu de les aider à faire leur travail de leader, car eux s'en sentaient complètement incapables. Ce qui distingue le leader, en tout cas celui qui est appelé à diriger dans un contexte chrétien, c'est ce que Larry Crabb exprime, Larry Crabb qui est un psychologue chrétien qui a écrit une bonne vingtaine de livres. Voilà ce qu'il dit. Alors qu'il était lui-même confronté à un problème qu'il devait, une situation, une discussion difficile qu'il devait avoir avec quelqu'un, où il allait devoir lui dire des choses pas très agréables. Il a adressé cette prière à Dieu, et c'est une prière qu'il a dû faire un millier de fois dans sa vie, si pas plus. « Seigneur, je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire. » Pourtant, Crabb, c'est des séminaires, il dirige la montée des hôpitaux. Enfin voilà, c'est une grosse pointure. Hein. « Seigneur, je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire. J'ai peur. » Et je préférais ne pas me trouver dans cette situation. Et il termine en rajoutant, « Combien j'aspire au ciel, ce serait vraiment bien si tu pouvais revenir maintenant. » Ben forcément, comme ça, je n'aurais pas besoin de me coltiner ce problème juste derrière. Alors, je ne sais pas vous, mais lui, il a dû faire cette prière un bon millier de fois. La grande majorité, les vrais leaders, selon Dieu, et j'ai arrivé à la qualité qu'ils ont principalement, et c'est pour ça qu'ils sont choisis, la grande majorité des leaders chrétiens ont déjà fait cette prière, et si vous saviez le nombre de fois, ça ne va pas vous rassurer ça peut-être, mais tant pis, le nombre de fois où moi j'ai fait cette prière. Et accessoirement, à ma connaissance, Jésus n'est toujours pas revenu. Donc ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose à apprendre. Donc à titre personnel, je crois ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous n'acceptons pas notre insuffisance, si nous ne l'exprimons pas honnêtement de ce genre de manière-là, en lâchant toutes les rênes, en disant « moi, je ne sais pas ce que je dois faire », Nous finissons par prendre des initiatives basées sur quoi ? Ben, sur notre ancienne nature, ce que nous étions avant de connaître le Christ, ou simplement à fuir la situation, donc en avoir peur, ou à renoncer à faire face au problème. Soit on le fait par nos propres forces et souvent ça tourne mal, ou soit on se tire, on fuit à tire d'aile. C'est le roi David qui, à un moment dans sa vie un peu particulier, particulièrement difficile, écrit dans ce psaume, très beau psaume 139, « Si j'avais les ailes de l'aurore, je m'enfuirais. Enfin, » il essaie de fuir la présence de Dieu partout parce qu'il dit « Ma situation, moi, je ne veux pas la gérer. » Et finalement, il finit par faire ce constat, « Oui, mais où que j'aille, tu es là, donc il ferait peut-être mieux que je te donne ton aide à toi. » Nous devons, c'est important, hein, ce n'est pas facile, ça va à l'encontre de ce que nous sommes, mais c'est important. Nous devons accepter notre insuffisance et nous devons apprendre à l'intégrer. Ça fait partie de nous. Ce n'est pas de la détérioration le fait de se sous-estimer, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement être lucide que nous ne sommes que des hommes. À titre personnel, même si je n'ai pas souvent été dirigé dans ma vie, ça m'est arrivé quand même, hein, rassurez-vous, mais proportionnellement à d'autres, pas souvent. À titre personnel, je préférerais être dirigé par quelqu'un qui reconnaît son insuffisance structurelle. Je dis structurelle parce qu'elle fait partie de nos limitations en tant qu'homme. Et reconnaître cette insuffisance, c'est abandonner au quotidien notre prétention à la toute-puissance, notre prétention à être Dieu. D'ailleurs, chaque fois que nous oublions notre faiblesse et notre besoin de Dieu parce qu'il est Dieu, nous pouvons être sûrs que c'est notre ancienne nature qui est à l'œuvre. Elle va toujours nous pousser à être indépendants de Dieu. Alors que le Saint-Esprit, lui, nous poussera toujours à rester dépendants de Dieu. Vous vous rappelez de l'image de la semaine passée ? Vous savez tout ce qu'il faut, hein ? L'esquisse, c'est la parole de Dieu, vous la connaissez, moi j'espère. Vous la connaissez de mieux en mieux. Et puis voilà, c'est bien, vous savez, la gauche, la droite, au-dessus, au-dessus, ok. Mais pour vivre cette parole, pour lui obéir, pour qu'elle la laisse transcender notre existence par l'action du Saint-Esprit, ben, il faut que le hors-bord il commence à tirer et il faut qu'on s'arrime au hors-bord. Et cet hors-bord, c'est la vie du Christ en nous. Donc, sans l'aide du Saint-Esprit et de sa puissance, nous resterons dans l'eau. Voilà. Alors, vous me direz qu'avouer votre faiblesse à Dieu est quelque chose que vous avez déjà fait. Normalement. Et si ce n'est pas le cas, je ne vais pas le savoir. Honnêtement, je ne doute pas une seconde que vous l'ayez déjà fait. Dire, Seigneur, moi j'ai besoin de ton aide, etc. Seulement, voilà. Reconnaître son insuffisance comme Dieu le comprend est vraiment très loin, mais très très loin, de ce que nous considérons être dépendant de Dieu. Notre conception de la dépendance, ce n'est pas sa conception de la dépendance. L'acceptation de notre insuffisance, comme Dieu l'entend, doit être et est véritablement un brisement intérieur. Il faut que ça casse. Alors, je ne fais pas allusion à une détresse de cœur, hein, bien que ce sentiment puisse être présent, mais je fais référence à l'absence de toute confiance en soi, un lâcher-prise total et absolu. Donc, il faut que ça casse, parce que par nature, on va toujours essayer de reprendre le volant. Rappelez, quelques semaines, j'avais dit, hein, suivi en voiture, quelqu'un qui avait sur son pare-choc une étiquette « Jésus est mon copilote ». Et j'avais dit « Ça ne suffit pas. Il faut lui filer le volant. » Je lui dis, tu veux même monter avec moi dans la voiture, c'est très joli, mais il faut lui filer le volant. Je pense que Paul avait bien saisi ce qui était en jeu au travers de tout ceci. Toujours, je reprends Romains 7, on a été beaucoup, mais en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Tant que l'apôtre Paul n'a pas pu déclarer ça avec une profonde conviction, et il faut bien comprendre ça parce que c'est valable pour nous aussi, tant qu'il n'avait pas compris ça profondément, il était en fait trop fort pour que le Christ, Dieu, puisse le secourir. Tant que nous ne pouvons pas déclarer ça du plus profond de notre être, en le croyant et en le pensant vraiment, nous sommes encore trop forts. Notre ancienne nature est trop forte pour que Dieu puisse nous venir en aide. On prend encore trop de place. Vraiment. En d'autres termes, comme le dit le pasteur Dwight Edwards, nous devons arriver au bout de notre rouleau spirituel. Si nous sommes fatigués de notre vie spirituelle, c'est parce qu'on s'esquinte à la vivre sans l'aide de Dieu. Hein. C'est aussi bête que ça. Et on ne fait pas ce qu'il dit. Ça, c'est le résultat. Hein. On dit, mais tu sais, ça va être difficile, mais il faut prendre à gauche. Mais donc, non. Je vais devoir apprendre à ma mère, à mon père, à mon chien, à mon chat, déjà. Or, je vais devoir apprendre à faire avec... Oh là là. Et il va falloir que je change, alors que moi, je pensais que c'était l'autre qui... Ouais, et ça, on se dit, ah ouais, non. Et on fuit. J'ai eu l'occasion d'être en contact avec quelqu'un cette semaine qui est très en colère, qui met un numéro au téléphone et par mail interposé, toutes les raisons qu'il en avait à en vouloir à son ex-femme, à ses gosses, à son père, à sa mère, à son chien, à son canari, et forcément à Dieu. Et lui là-dedans, responsable de rien. Alors qu'il mène sa vie depuis 30 ans comme si Dieu n'existait pas. Donc il a guidé sa vie pendant 30 ans et il a fini dans le mur. Et là, on ne se pose toujours pas de questions. Donc notre capacité à ne pas voir les choses comme elles sont, et si on ne dépend pas de Dieu, c'est ce qui finira toujours par arriver, est quand même extraordinaire, me semble-t-il. J'irai encore un pas plus loin. Si nous disons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, ça nous arrive quand même, de temps en temps, nous prenons encore trop de place. Parce que pour que Dieu puisse nous répondre, il faut qu'on aille un pas plus loin. Il faut arriver, et c'est un moment, ça je vous rassure, hein, c'est comme la conversion. Ce moment arrive un moment, si on suit le chemin, parfois c'est à travers des circonstances terribles, parce qu'il faut souvent qu'on soit poussé dans nos extrémités pour qu'on se rende compte qu'on est foutu, qu'on est au bord du gouffre, et que nous ne pouvons plus rien pour nous-mêmes. Il faut arriver à ce moment critique où on désespère vraiment, pas de Dieu, hein, pas des autres, mais de soi. Et c'est ce que Paul dit, toujours dans Romains 7. Hein. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? En fait, ça, c'est un appel au secours dirigé, un SOS, dans la bonne direction, vers Dieu. Et il ne fait pas ça pour accrocher une corde, comme s'il était au bord d'un gouffre pour que Dieu le remonte, hein, simplement, non, non. Il ne dit pas ça pour dire, tiens, je suis vraiment en situation difficile, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour me sortir simplement de la situation. Après, quand tu m'as remis sur la... C'est bon, hein, tu peux reprendre ta vie, moi je reprends la mienne. C'est comme ça qu'on fonctionne la plupart du temps. Hein. Tu ne sais pas m'aider là, parce que je suis vraiment dans la gadoue, j'en peux plus. Oh, merci beaucoup Seigneur, hein, à la prochaine. Hein. Mais cette intention de cœur, Dieu lui la connaît. Hein. Et on s'étonne que parfois on lui demande son aide et l'aide ne vient pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas compris ça. On n'a toujours pas compris ça. C'est une disposition, ce brisement est donc une disposition de cœur qui a, et ça c'est la bonne nouvelle, un commencement, elle se passe à un moment donné, et qui la plupart du temps, à ce moment-là, même s'il faut travailler dessus aussi comme n'importe quoi d'autre, qui n'a plus de fin. Une fois que ce brisement a eu lieu, c'est comme la conversion, hein, une fois que vous l'êtes, c'est un moment donné dans votre vie. Alors parfois, pour des raisons X ou Y, vous aurez l'impression que Dieu n'est plus là, qu'il a disparu, qu'il est reparti s'installer sur Saturne ou sur la Lune, qu'il n'est plus dans votre vie. Vous nous avez demandé peut-être, est-ce que je suis encore en relation? Est-ce que je n'ai pas rêvé le jour où il est rentré dans ma vie? Tout ça, c'est des sentiments très humains, mais le fait restera. Vous êtes un enfant de Dieu. Pour le brisement, pour cette reconnaissance profonde que nous ne sommes rien sans lui, que nous sommes totalement dépendants de lui, même si après avoir vécu ça, on peut encore se poser des questions et tenter, avoir la tentation de reprendre les rênes, en règle générale, ça ne dure jamais très longtemps. Vous avez peut-être remarqué au passage, et ça fait toute la différence, que Paul n'a pas demandé « qu'est-ce qui me délivrera ? Quelle méthode je peux employer pour me sortir de ce problème ? Quelle méthodologie ? Quel bouquin je peux lire pour appréhender ma problématique personnelle ?» Vous savez, je lis énormément de livres, hein, donc je ne suis pas en train de dire de ne pas lire. Hein. Pour moi, vous ne lisez pas assez. Oh, je l'ai dit. Ça m'a échappé. Zut. Paul, il ne demande pas une méthode. Il ne demande pas un truc ou un machin. Il demande qui ? Quelle personne va me sortir de ce que je suis ? Et il va, c'est Paul, hein, c'est un grand théologien, verset 24, au verset suivant, il répond à sa propre question. Les théologiens, ils font toujours ça. Ils posent une question et ils ont la réponse. Je remercie Dieu, c'est possible par le Christ, notre Seigneur. Sa réponse, c'est le Christ. Laissez le Christ être Dieu en lui. Bon, allez, je vais relancer un pavé dans la mer. Je l'ai lancé il y a quelques mois de ça déjà. Vous en souvenez sans doute pas. Mais apparemment, mon pavé n'était pas assez gros, il ne vous a pas assez éclaboussé. Hein. si Dieu est Dieu, vous voyez, s'il existe, et si vous l'avez rencontré, ce Dieu, le seul, sa vocation à lui, son être profond, c'est d'être Dieu. Ça, c'est la première chose, et c'est, me semble-t-il, important. Donc, ça veut dire une chose, c'est que il est plus important que vous. C'est terrible, hein, c'est égocentrique comme nous sommes. Hein. C'est un privilège de le connaître. Vous connaître vous, ou lui me connaître moi, lui, pour moi, ce n'est pas un privilège. Hein. Me connaître moi, pour Dieu, avant, il s'est coltiné un solide coco sur le dos. Hein, là, mais bon. Seule la présence de Christ en nous peut triompher de notre capacité à nous détruire en permanence et à détruire tout ce qui nous entoure. Ce péché lové qui se situe dans notre ancienne nature, c'est la présence du Christ qui est seul capable de triompher de cette pression continue. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je trouve un exemple biblique, et puis il y en a un qui m'est venu assez vite. Le pauvre, il savait que ça fait 1000 ans au moins, non plus que ça, que dis-je, 3000 ans, que l'on se sert de lui pour dire, faites pas ça, essayez de plutôt faire ceci. Je parle du roi David. Alors, ceux qui ont une petite vision, en gros, de la vie du roi David, mes amis, au cours de sa vie, il a eu de très, très nombreuses occasions de demander l'aide de Dieu, David, parce qu'il n'a eu que des emmerdements, en gros. Voilà. Relisez les psaumes, dont un grand nombre sont de sa plume, et vous vous rendrez compte que dans sa vie, ce ne sont pas les situations désespérées qui ont manqué, donc les occasions de faire appel à Dieu. Pourtant, malgré tous ces appels à l'aide répétés, David a dû, à un moment donné de sa vie, passer par ce brisement intérieur, par cette authentique prise de conscience qu'il n'y arriverait jamais tout seul. Et je vais vous prendre le verset où il prend conscience de ça, où il le dit à Dieu pour la première fois de sa vie. Pas beau, mon roi David ? Belle icône, hein ? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bon, il écrit ce psaume, il adresse cette prière à Dieu après avoir couché avec une femme qui n'est pas la sienne et accessoirement avoir envoyé le mari de la gonzesse se faire tuer à la guerre. Merveilleux, hein ? Dans sa situation, je rappelle quand même que techniquement, d'après la loi de Moïse qui est en vigueur déjà à l'époque, il est adultère, il est meurtrier et il a usurpé son pouvoir royal, donc son pouvoir de justice. Le roi d'Israël à l'époque, tout ce qu'il faisait, c'était sur son trône et les plaignants arrivaient, ils rendaient la justice, selon la parole de Dieu. C'est ce qu'il faisait. Donc, il a 3 chefs d'accusation contre lui et il le sait. C'est pour ça qu'il parle à Dieu en ligne directe. Il ne s'adresse même pas à quelqu'un d'autre. Il n'en parle même pas. Adultère, meurtrier, usurpation de son pouvoir royal pour donner la mort à un homme. Vous n'êtes pas des spécialistes de la loi de Moïse, je le sais, mais en gros, adultère, il risque quoi, d'après la loi de Moïse ? La mort. Meurtre, 10 commandements. La loi de Moïse, la mort. Usurpation du pouvoir royal, détourné à son propre compte. Alors qu'il est, il est supposé, en tant que roi d'Israël, représenter la justice de Dieu. La mort, il est 3 fois condamné à mort. Donc, on n'appelle pas ça être le dos au bord d'un gouffre, moi je ne sais pas ce qu'il faut, objectivement. Et ça, à travers tout ça, et il l'a fait, donc il est responsable de ça devant Dieu, hein, devant les hommes. En attendant, à travers ça, alors qu'avant, c'est déjà un homme de Dieu, c'était un homme qui aime Dieu. Hein, ça fait un peu peur, mais ça va nous faire redescendre sur terre, ça. Avant de passer par cette prise de conscience, cette prise de conscience n'y était pas. Il a dû passer par ce brisement. Donc, dans sa situation, il ne peut strictement plus rien faire par lui-même ou pour lui-même. Il est foutu. En fait, David a expérimenté ce que devait écrire Ésaïe quelques 300 ans plus tard. Arrêtez, c'est Ésaïe qui parle, hein, Ésaïe 2, 22. Arrêtez de placer votre confiance en l'être humain, en vous. Parce que quand on lit ce verset, on dit, ah oui, dans l'être humain, l'autre. Non, non, non. Le pire être humain qui peut vous rendre service, c'est vous-même. Votre pire ennemi, c'est vous-même, souvent. Et il continue Ésaïe en disant, arrêtez donc de placer votre confiance en l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Pas pour ça qu'on peut pas s'aider les uns les autres, hein. Mais dans ce genre de situation, mes amis, si Dieu n'est pas là, si on n'ouvre pas son cœur à ce que lui soit Dieu, autrement dit, nous devons arrêter, ça il faut vraiment retenir ça, hein. Nous devons arrêter de croire que nous possédons les réponses et les solutions, en fait que nous sommes la réponse à notre vie. Nous ne sommes pas la réponse à notre vie. C'est Dieu qui l'est. Alors, ce que nous apprend aussi la vie de David, c'est que ce grand brisement a été précédé de nombreux autres petits brisements. C'est comme une sorte de, je ne sais pas moi, au pôle Nord, tout ça, avant qu'il y ait un morceau vraiment de, je dirais que, de glace qui s'effondre dans la mer, ça devient un iceberg, il y a toutes des petites fissures qui ont commencé, parfois totalement insoupçonnables, qui ont commencé à s'installer. Des petits craquements qui peuvent paraître ridicules. Il y a un moment, ça fait crac, une bonne fois pour toutes. David a eu plusieurs de ces petits brisements. Je rappelle ça en gros. Son incompréhension à David, lorsque la promesse de Dieu d'être un jour roi d'Israël s'est fracassée contre le rocher de la réalité. Il est loin, il reçoit l'onction royale par le prophète de Dieu, il doit avoir 13-14 ans. Et on lui dit pourquoi on lui fait l'onction, c'est parce que Dieu t'a appelé à être le roi d'Israël. Pendant les 15 années qui ont suivi, il a dû fuir, on a voulu le tuer, le roi en place voulait le tuer, entre autres, hein. Avant d'être effectivement roi, il allait devoir passer par l'exil, fuir Jérusalem. Combien de psaumes il n'a pas écrit en disant tes demeures, donc la tente de la rencontre, le temple n'existait pas encore, me manque au Seigneur, parce qu'il est dans le désert en train de fuir avec ses compagnons, et il aimerait bien être à Jérusalem pour pouvoir être dans la tente de la rencontre et célébrer son Dieu avec les autres. Ben, il ne peut pas, il doit fuir. L'exil, la persécution, l'injustice, c'est profondément injuste ce qu'on lui fait subir, parce qu'il n'a rien fait de mal, David, à l'époque. Il ne mérite pas ça. Il a vécu ça pendant plus de 15 ans de sa vie. Mais c'est d'ailleurs à ces différents moments terribles de sa vie que nous devons la plus grande partie des psaumes de David. Pour le dire autrement, s'il n'était pas passé par là, nous n'aurions pas ces psaumes. Ces psaumes qui nous touchent, souvent de très près, car ils sont l'expression ou l'écho de nos propres troubles, bien souvent. C'est pour ça qu'on aime les psaumes. Autrement dit, Dieu, au travers de ces brisements de vie, ça nous est tous arrivé, mais on les authentifie rarement comme ça. Mais, eh bien, tous ces brisements, Dieu s'en sert pour purger notre foi de toutes nos fausses croyances, de tous nos faux dieux. Et le plus grand d'entre eux, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on peut lui faire dire, ce qu'il n'a jamais dit? Et qu'est-ce qu'on peut l'envisager comme étant un être qu'il n'est absolument pas? Dieu nous aime. Ça, on aime bien. Mais c'est vrai, hein? Dieu est amour, Dieu nous aime. Mais, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas le centre du monde. Aïe. Oui, nous sommes terriblement importants pour lui. C'est vrai. C'est vrai, hein? Bien sûr que c'est vrai. Christ ne serait pas mort sur la croix si nous n'étions pas importants pour Dieu. Mais c'est lui qui doit devenir terriblement important pour nous. C'est bien que beaucoup de chrétiens, « Ah, merci Seigneur, t'es mort pour moi sur la croix. Amen, alléluia. Moi, maintenant, je fais ma vie comme je veux. Oh, » ouais, mais... Ça ne marche pas vraiment comme ça. Hein. On peut essayer de le vivre comme ça, et certains essayent, mais quand on voit le résultat, il permet tout cela parfois pour que nous comprenions du fond de notre détresse et de nos échecs que seule la présence du Christ en nous, justement, peut triompher de ce que nous sommes. Malheureusement, de nos jours, et je ne pense pas trop exagérer en disant ça, la plupart des systèmes de croissance spirituelle, ou de sanctification, pour employer un terme biblique, adoptés par les chrétiens, sont fondés sur le « que ». Que faire pour que ma vie spirituelle soit meilleure? Ou le « quoi », qu'est-ce que je dois faire? Quoi faire? Autrement dit, sur les disciplines spirituelles, la relation d'être, le service chrétien, etc. Alors comprenez-moi bien, tout ça c'est bien, il faut une discipline spirituelle. Hein. Il faut prier tous les jours, il faut méditer l'écriture tous les jours si on peut le faire, et je pense qu'on peut le faire, quand on ne le fait pas c'est pour de mauvaises raisons. Tout ça est très utile, d'autant plus que je le fais moi-même, tout ça. La relation d'aide, je joue à ça de fin, si je peux dire ça comme ça, depuis plus de 20 ans. Mais tout ça, toutes ces disciplines, sont totalement incapables par elles-mêmes de nous affranchir de notre ancienne nature qui agit en nous. Donc, je vais être encore plus clair, je vais essayer en tout cas. Ce n'est pas parce que vous lisez votre Bible tous les jours et que vous priez tous les jours que vous serez un meilleur chrétien, un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur père ou une meilleure mère ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien de magique là-dedans. Cela n'arrivera que si, lors de ces temps avec Dieu, vous vous abandonnez totalement à lui, que vous renoncez à vous-même sans plus rien espérer de vous-même. Et surtout pas la capacité, ça peut paraître paradoxal et pourtant je vous assure que c'est vrai, et surtout pas la capacité de prier ou d'être en relation avec Dieu par vous-même. Car même ça, vous ne pouvez pas le produire par vous-même. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Bon, moi qui le dis, hein, c'est Paul, et je le lis. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Dans quoi ? Notre faiblesse. Vous n'êtes pas faible, l'Esprit Saint, vous ne l'entendrez jamais. Vous dites, ouais, moi ça va, c'est le Seigneur, c'est bon, je vais gérer ce truc. Je connais, j'ai fait ça pendant des années aussi. Je vais gérer ce truc, il n'y a pas de problème, moi je gère. Ah ben, voilà, t'es trop fort, moi je fais rien, l'Esprit Saint, il est dans sa petite cabane, hop, sa petite, le petit lumignon qui fume, vous voyez, la petite flamèche là qui fume, même s'il y a du vent. Et il n'est pas disponible, vous l'avez étouffé. Paul continue. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça vous est déjà arrivé avant de prier, de demander ce pourquoi Dieu voulait que vous priez ? Faites l'expérience. Hein. Imaginez, vous dites, oh, moi j'ai envie de prier pour un truc bleu, enfin, de repeindre mon plafond en bleu, mais la couleur, enfin, peu importe. N'importe quel exemple. Faites l'expérience. Disposez-vous à prier et priez pour un truc, quelque chose que vous avez à cœur. Si vous faites ça en vous disant, mais moi j'aimerais bien que tu me dises vraiment ce que tu veux comme priorité, ce que tu as comme priorité pour moi, pourquoi tu voudrais vraiment que je prie ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Si vous ouvrez votre perspective dans ce sens-là, ça ne va peut-être pas venir tout de suite, hein, mais dans les jours qui viennent, si vous répétez ce genre d'attitude, il va finir par vous dire. Et comme par hasard, ce pourquoi il veut que vous priez, ça n'a absolument rien à voir avec ce que pourquoi vous vouliez prier, mais rien. Ça sera déjà absolument plus égocentrique. La plupart des chrétiens, quand ils prient pour eux. Pour leur mari, pour leurs enfants, pour avoir un meilleur boulot, pour que ça s'arrange avec leur service. Vous voulez que ça s'arrange avec votre chef ? Devenez un chrétien. Il est de toute façon moins pire que les pires des maîtres esclavagistes qui flagellaient les chrétiens, qui étaient à leur service, et à qui Paul dit « Servez ces mauvais maîtres comme vous servez votre Seigneur. » À ma connaissance, aucun d'entre vous n'est esclave comme on pouvait l'être dans l'Antiquité, il me semble. Donc, je reprends mon texte. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Sans l'Esprit, nous ne savons pas. Nous allons prier à partir de notre nature propre, à partir de ce que nous pensons être important pour nos vies. Mais, Paul rajoute, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Alors, je vais résumer. Vous n'êtes pas obligé de me suivre jusqu'au bout là-dessus, mais je vous donne mon avis. Hein. La prière, c'est de l'écoute d'abord. C'est d'abord de l'écoute. Nous n'avons rien à dire. C'est Dieu qui a tout à dire. Pour ça que Paul dit, taisez-vous. Quoi. Parce que s'il dit, l'Esprit s'exprime en vous par des soupirs exprimés, il faut écouter. On lit la Bible, mais comment est-ce qu'on la lit ? Pour l'écouter ou pour s'en servir ? Ou intellectuellement, vous dit « Ah oui, mais ça m'arrange. Oui, mais Seigneur, tu as dit aimer nos ennemis, mais un contexte. » Et... Mais non, il n'y a pas de contexte. Tu apprends à aimer tes ennemis. Je continue. « Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit. » Il se prie l'un l'autre, si vous préférez. Dieu s'adresse à Dieu à travers vous. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. J'ai déjà dit, je pense, hein, mais relisez les prières du Nouveau Testament, en particulier dans le livre des Actes, vous savez, qui relate la création, la première Pentecôte, la naissance de l'Église et la première Église à Jérusalem, et puis toutes les autres implantées par Paul un peu partout dans le monde connu de l'époque. Il n'y a pas une seule prière égocentrique. Il n'y a aucune prière qui est tournée vers eux, aucune. Ils sont persécutés, ils prennent des tuiles, ils sont arrêtés, jetés en prison. Il n'y en a pas un qui dit « Oh, sauve-moi !» Aucun. C'est que ton œuvre soit faite, que ta gloire resplendisse, que ta volonté soit faite. On le dit facilement, ça. Alors, pourquoi est-ce que nous ne savons pas ? C'est ce que Paul dit, prier par nous-mêmes. C'est ce que Paul nous dit. Vous ne savez pas prier. Je ne sais pas prier. Paul le dit. C'est Paul qui le dit, vous vous rendez compte ? Daniel Bourguet, mon père spirituel, un jour m'a dit la même chose. Heureusement, j'étais assis sur ma chaise. Quand il m'a dit « Oui, je ne sais pas prier non plus, je ne sais pas prier Yves. » Et je me suis dit « Oh, si lui ne sait pas prier, on est mort. » Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, Daniel ? Ben, exactement ça. En tant qu'être humain, en tant qu'homme alimenté par mon égocentrisme et mes besoins, etc., Je ne sais pas prier, je ne sais pas ce qu'il faut demander véritablement. Qu'est-ce qui est dans la pensée de Dieu? Je sais bien que Jésus, il y en a quelqu'un qui m'a sorti ça cette semaine hors contexte. Oui, mais Jésus nous a dit, priez en mon nom et vous serez exaucés. Oui, oui. Quel est le contexte de ce passage? Le royaume de Dieu. Prier au nom de Jésus, ben, il faut avoir ses priorités à lui, son état d'esprit à lui. Est-ce que Jésus a jamais prié quoi que ce soit pour lui-même? Rien. Rien. C'était tout pour son Père, tout pour le royaume, tout pour la venue du royaume. Et quand il a prié, oui, quand il a prié pour des êtres humains, c'était ses disciples. Et il ne demande pas à Dieu de les protéger. Il dit, je les laisse comme des brebis parmi les loups. Donc, préserve-la du mal. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du mal, de faire en sorte qu'il n'ait jamais de tuiles. Je ne te demande pas ça, Père, parce que ce n'est pas ta pensée. On n'est pas plus grand que notre maître, il a fini sur une croix, vous croyez quoi, franchement? La plupart des chrétiens souffrent, et ils sont malheureux parce qu'ils souffrent pour de mauvaises raisons. Un chrétien persécuté qui sait qu'il souffre pour son Seigneur parce qu'il s'engage à sa suite et qu'il veut vraiment devenir un disciple. Bien sûr que c'est horrible, bien sûr que c'est dur, mais il sait pourquoi il souffre. Il y a une raison véritable à cette souffrance. Donc pourquoi ne savons-nous pas prier par nous-mêmes? Tout simplement parce que notre prière est obstruée par nos désirs personnels, aussi religieux semble-t-il être. Jacques dit rien d'autre dans son épître. Il dit rien d'autre. Vous ne recevez pas, comment il dit, excusez-moi, je vais essayer de trouver le verset exactement. Vous ne recevez pas, il dit pas dans la prière, parce que vous demandez mal. Et il continue à dire, parce que vos cœurs sont divisés. Vos cœurs ne sont pas à Dieu totalement. Nous devons donc apprendre cette terrible vérité, qui ne nous plaît pas du tout, me semble-t-il, que notre nature propre a tellement de mal à accepter. La suivante, encore. La fin de nous-mêmes est le commencement de Dieu. Tant qu'on n'arrive pas au bout de nous-mêmes... Enfin oui, Dieu est là, hein, si nous avons... Si vous me passez par ce temps de conversion, il est là, bien entendu qu'il est là, bien entendu qu'il vous aime, bien entendu que vous êtes sauvés. Mais qu'est-ce que ça change dans la vie? Donc à moins de renoncer vigoureusement, oui, vigoureusement, hein, à tout espoir, à toute confiance en notre propre capacité d'accomplir la volonté de Dieu, nous aurons beau connaître tout l'enseignement biblique sur cette question, ça ne fera absolument aucune différence dans notre façon de vivre. C'est pourquoi je pense que tant d'entre nous, et je me mets avec, ont besoin d'une sorte de nouvelle conversion par laquelle nous nous approchons du Christ pour notre sanctification, pour notre vie, comme nous étions venus à lui pour notre salut, c'est-à-dire dans une dépendance absolue et totale. On a tous eu des expériences de conversion sans doute sensiblement différentes. Parce que nous sommes différents, voilà. Le contenu est souvent le même, forcément. Il y a la repentance, la prise de conscience de ce que nous sommes vraiment, de qui est Dieu. Voilà. Quand ça se passe, ça c'est un truc qui se retrouve dans toutes les conversions, dans tous les témoignages. Quand ça se passe, il y a justement cette prise de conscience qu'il est Dieu, nous ne sommes rien. On sait qu'on dépend de lui pour tout. À ce moment précis, nous sommes des bébés devant un Père aimant, voilà. On sait que c'est lui, on sait que c'est ça, on sait que c'est vrai, on sait que c'est la vérité. Et cette grâce est tellement énorme que, hop, on est dépendant et ça nous arrange. Oupi, on est super. Voilà, on est totalement dépendant à ce moment-là. Eh bien, pour la sanctification, il faut apprendre à être aussi dépendant. Forcément, là, on résiste un petit peu plus. Et c'est ça que Paul décrit si bien quand il écrit aux Colossiens, même si on comprend mal ce verset en général. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme... dans une dépendance totale, la conversion, c'est à ça qui fait référence, c'est pour ça que j'ai mis les parenthèses hein, dans le texte, les parenthèses ne s'y trouvent pas. Marcher en lui, sanctification. Devenez ce que Dieu a fait de vous. Par nos propres moyens, on n'y arrivera pas, mes amis. On essaye. Hein. J'ai envie de dire, c'est bien d'essayer, mais sans lui, ça ne fonctionnera pas. Et comme on sera fatigué, vous savez par quoi on va remplacer la vraie vie que le Christ veut implanter dans notre vie? À la place de cette dépendance totale de Dieu, on va installer du religieux, des pratiques religieuses, des machins, des trucs pour nous donner l'illusion que nous sommes des gens bien, que nous faisons la pensée de Dieu. Et les conséquences de l'installation de cette religion d'homme produite par notre nature à la place de la vraie vie de l'esprit, ça donne toujours les mêmes symptômes. Du jugement, du cadre, des vices, des rough, voilà. De la morale, plus en plus, stricte, impitoyable, qui oblige les gens, les chrétiens, à cacher ce qu'ils vivent vraiment. Dans combien d'églises pouvaient arriver en disant « Moi, ma relation à Dieu est une catastrophe, ou je suis en colère, ou j'ai envie de tromper ma femme. » La plupart des églises, vous ne pouvez pas parler de ça. Ou vous allez vous faire sulfater, on va vous shotter dehors. Pourquoi ? Parce que ça met en danger le système mis en place. C'est de l'auto-congratulation. Moralement, nous sommes magnifiques. Oui, mais Dieu voit l'intérêt. Les pharisiens, mes amis du temps de Jésus, ils étaient magnifiques extérieurement. Au niveau religiosité, il n'y a jamais eu plus fort qu'eux. Hein. Mais jamais, même Paul le dit. Quand il parle de son ancienne vie dans le pharisianisme, il dit « Moi, au niveau de la loi de Moïse, j'étais parfait. 613 commandements, j'y obéissais tous les jours, comme mes frères pharisiens. » Et il dit tout ça, poubelle, parce que ça ne vaut rien. Parce qu'à l'intérieur, et Jésus leur dira, vous êtes remplis de quoi ? D'ossements et de morts. Vous n'avez pas la vie ? Je termine en disant ceci. De la même manière que Dieu vous a converti à son Fils, il vous a converti à son Fils au travers d'un total abandon. C'est ce que Paul dit. Il n'y a rien de vous là-dedans. Vous êtes abandonné totalement à cet amour qui se révélait pour la première fois dans votre vie. Le Christ était là et vous ouvrez ses bras. Eh bien, cette dépendance, cet abandon total, vous devez continuer à vivre cet abandon. Votre vie spirituelle, pour le dire autrement, a commencé par cette dépendance totale et par cet abandon. Vous avez besoin de cet abandon au quotidien, tous les jours de votre vie, pour que le Christ puisse atteindre sa plénitude dans votre vie. Il travaille. On continuera, je n'ai pas fini. Ils sont en train de se dire, il n'a pas fini. Vous savez, je termine par ça. Moi, je me bats avec ces textes depuis, quand je dis avec les textes, avec Dieu, avec les textes, voilà. Parce que je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Au moment, ça tient, ma discipline tient, je sens un peu Dieu, ouais, super. Je sens un peu plus présent, génial. Et puis, paf, je me lève un matin, Dieu n'est plus là, enfin, dans ma tête. Ce n'est plus le premier truc qui me vient, il n'est plus là. Il est toujours là, hein, rassurez-vous. Vous vivez ça combien de, ça fait combien de temps que vous vivez ça? Oh, je dois prier. Vous croyez quoi? Oh, j'ai plus. Attends, je me fais un café ou je passe du temps avec Dieu? Oh, mais non, mais j'ai envie d'un café. Enfin, je vis pas avec vous, hein, mais bon. Ouais, je prierai ce soir, Seigneur. On se donne rendez-vous ce soir. Pendant la journée, on pense même plus à lui. Et puis on rentre chez soi. Qu'est-ce que je suis claqué? Oh, qu'est-ce que ce chef de service m'a encore pompé l'air aujourd'hui? Mais qu'est-ce que je suis énervé? Alors, je vais essayer de prier quand même. Seigneur, et puis il y a le chef de service qui passe, et puis les gosses, et puis l'engueulade avec la collègue, et puis finalement on se dit, écoute, ce n'est pas le moment, excuse-moi, mais je ne suis pas à ça, et on va dormir. Je n'ai pas passé de caméra chez vous. Hein. Voilà. Et après on se dit, quand même dur la vie chrétienne. Ah oui, comme ça, c'est clair que c'est de la folie furieuse. Hein. Mais moi je vous le redis, et ça c'est une parole d'espérance forte, ce n'est pas, et ça n'a jamais été, la volonté de Dieu pour ses enfants. Jamais. Jamais. Amen.